Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 8 avril, Emmanuel Macron veut supprimer l'ENA. C'était une promesse faite après la crise des Gilets jaunes. Le chef de l'État veut réformer l'ensemble de la haute fonction publique pour la remettre dans le réel. Le débat ne durera que quelques heures sur un sujet de société essentiel. La proposition de loi sur l'euthanasie est examinée à l'Assemblée nationale. Nous en parlerons avec le docteur Morel, ancien président de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Dans RTL Midi aussi, la jeune fille de 18 ans arrêtée à Béziers dans le bureau d'un juge antiterroriste. Elle est soupçonnée d'avoir voulu attaquer une église durant le week-end de Pâques. Et puis le coup de cœur de nos correspondants nous emmènera à Toulouse, chez de jeunes ingénieurs qui ont l'esprit viking. Ils sont en train de construire un drakkar. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Avec toujours des records de gel terribles ce matin, cette fois au sud de la France.
Et oui, à Salon de Provence par exemple, c'est descendu à moins 3,2 degrés. Autre record à Avignon, moins 2,7 degrés. Ça va bien remonter cet après-midi. On passera même au-dessus des normales au sud, surtout dans le sud-ouest, entre 15 et 22 degrés. La hausse sera plus timide au nord, de 10 à 15 degrés. Côté ciel, c'est bien ensoleillé au sud de la Loire, un peu plus nuageux au nord, même plus chargé au nord de la Seine et encore un petit peu de vent près de la Méditerranée.
La question du jour sur RTL.fr à propos de la fin de vie. La loi doit-elle évoluer? Vous êtes 84% à dire oui, il y a 10% de non. On attend bien sûr vos arguments, vos témoignages au 32-10. Bonjour Pascal.
Et c'est la deuxième fois en moins de 8 jours que nous en parlerons. Bonjour Christelle, parce que c'est un sujet qui passionne nos auditeurs. Emmanuel Macron va donc annoncer la suppression de l'ENA et ça aussi, ça passionne nos auditeurs. La diplomatie européenne est-elle faible? Vous avez peut-être vu cette séquence vidéo de quelques secondes, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui n'a pas eu le droit à une chaise face au président turc Erdogan, et ça fait beaucoup réagir. Faut-il décorer les présidents d'aéroclubs de Poitiers? C'est la volonté du ministre délégué au transport Jean-Baptiste Djebbari pour marquer son soutien après la baisse des subventions décidée par la mairie. Et puis on pourra revenir sur la victoire du PSG que j'avais bien vue hier,
oui,
puisque à partir du moment où j'annonce
pas,
un résultat, c'est généralement le contraire qui arrive.
C'est ça.
Avec une étonnante régularité, je me trompe toujours, et c'est ce qui doit faire mon charme en matière de football. Donc, parlons-en tout à l'heure, cher ami.
On va y revenir.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
Et pour commencer, une bonne nouvelle, avec le retour au cinéma du petit Gaulois moustachu et teigneux qu'on adore, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Ce sera donc le titre du prochain film que prépare Guillaume Canet, d'après l'œuvre de Goscinny et Uderzo. Et alors, au niveau du casting, Stéphane Boutsock, il y a de l'audace partout à Tis.
Oui, c'est même la plus belle affiche du cinéma français depuis des décennies. Astérix et Obélix seront joués par Guillaume Canet et Gilles Lelouch, ça on le savait. Voici les autres. Vincent Cassel sera Jules César, Marion Cotillard, Cléopâtre. Derrière la barbe du druide panoramique, on trouvera Pierre Richard. Le barde Assurance Tourix sera interprété par Philippe Catherine, ça lui va très bien. La chanteuse Angèle jouera Falbala, Audrey Lamy sera Bonnemine et le footballeur Zlatan Ibrahimovic incarnera un redoutable guerrier nommé Antivirus. C'est pas fini, puisque José Garcia, Franck Gastambide, Jérôme Commander, Manu Payet, Jonathan Cohen, le rappeur Aurel San et même les youtubeurs à la mode McFly et Carlito vont aussi faire partie de l'aventure. Le tournage débute dans une dizaine de jours au studio de Bry-sur-Marne, puis en Auvergne et un peu au Maroc. Une super production de 60 millions d'euros dont la sortie est prévue en 2022 ou en 2023. Dans tous les cas, ça sera avec RTL.
Ah ben les dieux ont tombé sur la tête avec ce casting. Merci Stéphane. C'est une vieille dame de 76 ans aussi, prestigieuse que controversée. Créée par le général de Gaulle en 1945, l'ENA, l'École nationale d'administration, va être supprimée par Emmanuel Macron. C'est tout un symbole, mais au-delà, le chef de l'État va présenter tout à l'heure, Marie-Bénédicte Allaire, les grandes lignes d'une réforme globale de la haute fonction publique.
Oui, effectivement, il a annoncé cet hiver des mesures pour diversifier les profils avec un plus grand nombre de prépas talents et des aides matérielles durant les études. Aujourd'hui, il doit faire des annonces sur la formation et les carrières des futurs hauts fonctionnaires. Alors la pouponnière de la haute fonction publique, Elena, va effectivement changer de nom, c'est symbolique, au profit d'un nouvel institut. On y accédera toujours via un concours d'entrée et il y aura toujours un classement de sortie. Mais les ex-élèves ne pourront plus être titularisés dans les grands corps d'État comme la Cour des comptes ou certaines directions d'administration sans avoir d'abord fait leurs preuves pendant plusieurs années sur le terrain et dans des missions jugées prioritaires par l'État. Quant à la formation, il y aura un tronc commun pendant une période entre le futur institut et une douzaine de grandes écoles, comme par exemple l'École nationale de la magistrature ou celle des hautes études en santé publique. Emmanuel Macron veut reconnecter l'administration avec les attentes des Français. Il veut aussi rendre la haute fonction publique plus attractive en permettant à ses membres de réorienter leur carrière plus facilement. Et dernier point, Strasbourg ne sera pas sacrifié puisqu'une partie des enseignements y restera.
Marie-Bénédicte Allaire, avec nous un ancien élève de l'ENA, de la promotion d'Emmanuel Macron d'ailleurs, ancien conseiller de François Hollande. Bonjour Gaspard Ganzer.
Bonjour.
Faut-il vraiment supprimer l'ENA ?
Je crois que l'ENA est devenue un symbole et malheureusement un mauvais symbole. C'est moins la formation en tant que telle qui est en cause que les énarques, une sorte d'ornithorynque français qu'on regarde avec autant d'étonnement que de méfiance. Et on accuse les énarques de tous les maux. Alors je ne crois pas qu'ils soient responsables de tous les maux de notre pays, mais ils ont leur part de responsabilité. Et l'ENA est devenue un mauvais symbole, donc il faut probablement en changer le nom et changer l'école de fond en comble. Et je crois que c'est l'intention du président de la République.
Il y a deux mois, Emmanuel Macron avait insisté sur la nécessité d'ouvrir les voies d'accès à des jeunes d'origine modeste, expliquant que l'ascenseur social fonctionnait moins bien aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Est-ce que ça va vraiment donner un appel d'air ?
En tout cas, il faut tout faire pour, parce que c'est vrai que l'ENA n'est pas l'institution qui est la plus représentative de la diversité de la société française, même s'il y a aussi des gens qui sont issus des classes moyennes, qui sont des anciens fonctionnaires, y compris il y en a dans le concours externe, mais on peut faire beaucoup mieux. Sciences Po y est arrivé il y a quelques années avec les conventions d'éducation prioritaire qui ont permis beaucoup d'élèves, notamment venant des banlieues, d'accéder à l'école de Rue Saint-Guillaume. L'ENA pourrait s'en inspirer, par exemple.
Et dans la réforme, il y aura notamment un tronc commun avec une douzaine de grandes écoles. Est-ce que c'est vraiment de nature à ouvrir ou pas tellement ? Parce qu'en fait, on retrouve toujours la même sociologie.
Ça ne peut pas faire de mal, mais je pense que ça ne suffira pas. C'est une bonne idée qu'il y ait un tronc commun à toutes les écoles qui forment des hauts fonctionnaires pour qu'il y ait une culture commune, notamment sur les défis du XXIe siècle, l'écologie, la transformation numérique, l'égalité des chances. Mais je crois que c'est les concours d'accès qui doivent être réformés, notamment pour permettre à des gens d'origine plus modeste d'accéder à ces écoles.
Il y a une idée intéressante aussi, c'est cette obligation d'avoir une expérience dans le privé avant d'entrer dans les grands corps d'État. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ça permettrait de plus être hors sol ?
Alors, je ne considère pas que tous les énarques sont hors sol. Il y a des énarques hors sol. En revanche, je concède et reconnais que les énarques ne connaissent pas grand-chose au secteur privé. Et je trouve que ce serait vraiment une très bonne chose qu'il y ait davantage d'expérience dans les entreprises avant d'avoir accès à des grandes fonctions, des fonctions importantes. Moi, depuis quelques années, je suis devenu un chef d'entreprise et je peux vous dire que j'y ai appris beaucoup de choses, peut-être plus même que quand j'étais à l'ENA.
Est-ce que c'est de nature à réconcilier les Français avec la haute fonction publique ou est-ce que c'est juste purement symbolique, comme vous le disiez au début, Gaspard Ganzer ?
Je pense que ça ne suffira pas, mais vous savez, les symboles sont importants, notamment quand on touche au recrutement des élites. Il y a quelques années, ça a été dit tout à l'heure dans le journal, on a déplacé l'ENA de Paris à Strasbourg. Et je pense que ça a fait beaucoup de bien à l'ENA de ne pas être enfermé simplement à Paris, de se rapprocher des institutions européennes, d'aller plus sur les territoires. Ça n'a pas suffi, mais je crois que ça a fait du bien. Il ne faut jamais sous-estimer l'importance des symboles. Et si on change le nom de l'ENA, ça ne sera pas simplement cosmétique, parce que l'ENA est une marque qui charrie aussi des valeurs négatives et il ne serait pas inutile d'en changer le nom.
Merci beaucoup, merci Gaspard Ganzer de la promotion
merci
d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup, à bientôt sur RTL avec Thomas Soto. Merci.
Bientôt,
la barre des 10 millions de personnes vaccinées sera franchie d'ici ce soir dans notre pays et le public s'élargit. Les malades de mucoviscidose âgés de moins de 50 ans ont désormais le droit de recevoir les vaccins Pfizer et Moderna. Quant à l'école à la maison, jour 3 est toujours dératé. La plateforme du CNED est de nouveau perturbée, cible encore une fois de cyberattaques. Et le Covid s'invite cette année sur votre déclaration de revenus. Ça commence dès aujourd'hui. Faisons le point avec vous, Éric Vanier, avec ces exonérations inédites.
Oui, surtout ne pas surdéclarer. La plupart des aides liées à la crise échappent à l'impôt. Si vous êtes un travailleur indépendant, ne pas déclarer par exemple les montants du fonds de solidarité. Si vous télétravaillez, ne pas déclarer l'allocation que votre employeur vous a peut-être versée pour couvrir les frais d'encre d'imprimante, de papier ou d'abonnement Internet. Si vous travaillez à l'hôpital, ne pas déclarer la prime Covid. Si vous avez touché la prime Macron, coup de pouce au pouvoir d'achat accordé par certaines entreprises à leurs salariés, ne pas la déclarer non plus. Et si vous avez effectué des heures supplémentaires entre mars et juin, période de l'urgence sanitaire, donc de l'année dernière, ne pas les faire figurer, ces heures supplémentaires, dans votre déclaration de revenus dans la limite de 7 500 euros.
Et la déclaration de revenus est aussi plus verte cette année, Eric ?
Oui, pour nous inciter à changer de mode de transport, le forfait mobilité durable, lui non plus, ne doit pas être déclaré. C'est une aide que les entreprises volontaires donnent aux salariés qui viennent travailler à vélo ou en covoiturage. Et si vous utilisez une voiture électrique, possibilité de surévaluer de 20% les frais kilométriques professionnels qui viennent en déduction du revenu imposable.
Enfin, dernier point, la déclaration automatique se généralise.
Oui, plus d'un tiers des foyers fiscaux n'auront quasiment rien à faire cette année. Juste à vérifier que les chiffres et les informations pré-remplies sont exactes. S'il n'y a rien à modifier, rien à rajouter, la déclaration sera automatiquement validée. Vous pourrez passer à autre chose.
Merci. Et si vous remplissez encore une déclaration papier, vous avez jusqu'au 20 mai. Pour les autres, la date limite s'échelonne du 28 mai au 6 juin en fonction de l'endroit où vous résidez. On fait une pause dans un instant. On évoque un sujet intime, éthique et complexe. L'euthanasie.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
C'est un débat douloureux et intime que nous ouvrons aujourd'hui autour de la fin de vie et de l'euthanasie avec cette question, la loi doit-elle évoluer ? Avant d'aborder le débat à l'Assemblée nationale, le témoignage de Nathalie, elle a 63 ans. Elle souffre depuis 20 ans de la maladie de Lyme.
Mon quotidien, c'est souffrir toute la journée, avoir mal dans toutes les articulations, des brûlures de partout, des picotements, envie plus de rien, plus de désir, plus d'envie, et me dire vivement soir, je me couche. Je suis allée en Suisse, en Allemagne, à Bordeaux. On m'a fait acheter des valises complètes de compléments alimentaires qui ne m'ont rien apporté. Je me vois pas encore vivre des années comme ça, quoi. Je ne vois pas le bout du tunnel.
Nathalie Abou, qu'a rencontré Vincent Serrano, elle suit actuellement un ultime traitement et en cas d'échec, elle envisage d'avoir recours au suicide assisté en Suisse. Cette question de l'euthanasie sera évidemment au cœur des auditeurs. On a la parole dans une vingtaine de minutes avec vous, Pascal Praud.
Et on ne fait que répéter les arguments qui sont favorables à l'euthanasie, c'est-à-dire la fin de la souffrance, on vient de l'entendre, la perte progressive du contrôle de son corps, la dégradation inacceptable souvent pour le patient qui perd son autonomie. Éviter également les pratiques officieuses, parce que évidemment qu'il y a des euthanasies clandestines. On sait qu'à l'hôpital, on met fin parfois à la souffrance des patients et il faut mettre fin pour le coup à cette hypocrisie parce qu'on sait que ça se passe comme ça. Faut laisser le choix aux patients, c'est le respect de sa liberté. Enfin, le dernier argument, et il n'est pas des moindres, les Français sont favorables dans une écrasante majorité à pouvoir choisir leur fin de vie.
Voilà, le débat est ouvert au 32-10. Alors, est-ce une ultime liberté ou une transgression majeure ? L'Assemblée nationale rouvre aujourd'hui un débat passionnel avec cette proposition de loi du député Olivier Falorni qui ouvre un droit à une fin de vie libre et choisie. Jacques Serret, qu'y a-t-il exactement dans ce texte ?
Eh bien, concrètement, cette proposition de loi prévoit une possibilité. Possibilité pour tout citoyen en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable de demander à bénéficier d'une aide à mourir. Une aide active, donc très encadrée. Il faut que la souffrance ou la dégradation soit incurable et insupportable. Ce texte prévoit également une liberté de conscience pour les médecins. Seulement 5 articles composent cette proposition de loi, mais plus de 3000 amendements ont été déposés, dont plus des 2/3 par des députés Les Républicains hostiles à ces mesures. Ce sujet divise. Tous les groupes de l'Assemblée vont laisser leurs élus s'exprimer en conscience sans donner de consigne de vote.
Le problème, Jacques, c'est que ce débat de société si complexe ne va durer que quelques heures.
Oui, car c'est une proposition de loi. Elle émane d'un député et la règle, c'est qu'on ne peut pas y consacrer plus d'une journée. Ce soir, à minuit, les débats seront clos. Avec 3000 amendements déposés sauf coup de théâtre, c'est mission impossible. Le texte ne devrait pas être adopté. Cette fois en tout cas, certains parlementaires réclament déjà que le gouvernement prenne le relais dans les prochains mois via un projet de loi. Mais selon nos informations, l'exécutif n'est pas du tout pressé de l'inscrire d'ici 2022.
Jacques serait en direct de l'Assemblée nationale. Alors, on entend beaucoup les défenseurs de l'euthanasie, moins ceux qui accompagnent les personnes en fin de vie. Bonjour docteur Morel.
Bonjour madame.
Vous êtes médecin au CHU de Rennes, ancien président de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. La loi Leonetti de 2016 prévoit une sédation profonde et continue pour les personnes en fin de vie. Et pourtant, le débat est récurrent sur le thème « On meurt mal en France ». Est-ce qu'il n'est pas temps d'aller plus loin ?
Alors, vous avez commencé par citer la loi Claeys-Leonetti, qui montre déjà les progrès qui ont été réalisés en France. C'est-à-dire que on entend effectivement toujours la notion du mal mourir en France, mais ça serait négliger les progrès liés à la loi, qui fait qu'avec le droit à la sédation, maintenant, on peut endormir un malade pour s'assurer qu'il ne souffre pas au moment où il va décéder. La loi qui permet, par les directives anticipées, qu'un malade soit mieux écouté. Et en 5 ans, 6 fois plus de nos concitoyens ont écrit, par exemple, des directives anticipées, ce qui nous amène aujourd'hui au niveau européen.
Oui, mais il y a un manque cruel de moyens d'accompagnement.
Mais alors même dans les soins palliatifs, il y a eu aussi des progrès considérables. Aujourd'hui, c'est 60% à peu près des patients dont l'État le nécessite qui ont accès à une compétence en soins palliatifs versus 30% il y a une dizaine d'années. Donc s'il manque des choses, manque de moyens, en particulier pour le domicile, et c'est vrai, et c'est l'objet en particulier du prochain plan qui a été annoncé par le ministre, il ne faut pas nier tous les progrès. Mais ces progrès qui ont été réalisés n'empêchent pas que dans mon quotidien de praticien, de médecin, j'entends souvent des personnes qui vont me demander à anticiper le décès qu'ils vont avoir. Et j'ai souvent trois situations. Alors, une que je dis de moins en moins parce que c'est quand j'étais aux urgences, c'était les personnes qui faisaient des tentatives de suicide. Je passe, mais ça fait partie quand même des personnes auxquelles il faut penser. Dans mon quotidien des unités de soins palliatifs, j'ai deux grandes situations. La première, c'est la personne qui souffre, qui a peur de souffrir, qui a peur de l'acharnement thérapeutique, et qui, au regard de cette crainte, au regard de cette souffrance qu'elle vit, me demande de mourir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces patients, je suis capable au quotidien de construire avec eux une réponse soignante qui leur convient. C'était le cas de cette dame qui était arrivée avec un cancer du poumon, qui voulait mourir parce qu'elle était dans une détresse morale extrême. Elle est restée 6 semaines dans l'unité de soins palliatifs. Elle a pu profiter de sa famille. Elle a même pu aller à l'extérieur et revoir la mère. Et lorsque ces derniers instants sont arrivés, elle a bénéficié d'une sédation profonde.
Donc ce que vous nous dites en fait, c'est que cette liberté de choisir, elle existe déjà selon vous ?
Alors elle existe déjà pour un certain nombre de personnes, mais c'est vrai qu'on a d'autres demandes qui sont des demandes qui échappent à la problématique médicale. C'est-à-dire ce sont les personnes effectivement qui vont mettre en avant leur volonté de maîtrise, qui vont mettre en avant l'expression d'un droit de liberté et qui interrogent, me semble-t-il, un concept qui est celui de l'assistance au suicide. C'est-à-dire que c'est une réflexion beaucoup plus large au niveau de la société et que cette réflexion sur l'assistance au suicide, elle est, à mon avis, au cœur de cette proposition de loi, puisqu'elle interroge la notion de liberté et la notion d'autonomie.
Et ça, ça vous dérange en tant que médecin ?
Non,
c'est quelque chose d'inenvisageable pour vous ou pas ?
Alors, non, moi, là, je ne suis pas dans la dichotomie de la réponse « faut-il ou ne faut-il pas ». Moi, je suis pour faire vivre le débat démocratique et bien comprendre les enjeux. En particulier sur la notion de liberté, par exemple, qui est mise en avant, et sur la notion de dignité. Sur la notion de liberté, si le sujet est libre lorsqu'il demande, on ne peut pas nier qu'il va y avoir un impact sur son entourage. Et moi, j'entends des proches qui me disent « je suis dans l'obligation de suivre la demande de mon frère, la demande de mon mari, la demande de mes parents ». Et l'impact, il n'est pas simplement pour la personne, le voisin, elle est aussi pour la personne dans la famille, elle est aussi pour les autres patients que nous rencontrons. Lorsqu'il y a un débat sur la fin de vie, un certain nombre de mes patients viennent me voir et se réinterrogent sur les choix qu'ils ont faits. Et donc, si on est libre de demander, je pense qu'il ne faut pas nier que cette liberté, elle engage aussi autrui. L'autre élément, c'est la notion de dignité, sur lequel on est
rapidement,
tous pour...
pardonnez-moi, docteur Morel,
on est tous pour mourir dans la dignité, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est de soutenir le sentiment de dignité de ces personnes, de soutenir le sentiment de l'estime de soi. Et la réponse, me semble-t-il, n'est pas dans donner ou pas l'autorisation de donner la mort, c'est de dire comment on fait pour soutenir les personnes qui ont perdu ce sentiment de dignité. Mmh. Et on voit bien que cette notion de sentiment de dignité, elle traverse la question sociétale, par exemple, si on s'interroge autour de nos personnes âgées. Donc voilà pour moi l'enjeu. Oui. L'enjeu, il est autour de la prise en charge plus largement de la vulnérabilité de ces situations de personnes qui vivent des très grandes difficultés, et que ça serait utopique de penser qu'une loi viendrait clôturer finalement notre frayeur ontologique, oui, notre frayeur fondamentale qui est celle de mourir. Je ne crois vraiment pas que ce dispositif législatif répondra à cette frayeur.
Merci, merci docteur Morel d'avoir été l'invité de ce journal. On a bien compris que c'est un débat de société qu'on aura encore pendant de longs mois, voire de longues années. On fait une pause et dans un instant, on part dans les Bouches-du-Rhône où le gel a sévi cette nuit.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
3 degrés, moins 3 degrés 2 à Salon de Provence ce matin. Record battu. C'est au sud qu'il a gelé. Moins 7 degrés un peu plus loin à Saint-Rémy-de-Provence. Étienne Baudu, vous êtes chez une arboricultrice très inquiète pour ses arbres fruitiers.
Oui, ça peut paraître étonnant, hein, mais lorsqu'elle est arrivée sur sa parcelle de poirier, Camille Poulet porte encore son bonnet. Il fait pourtant déjà 13 degrés, mais Camille n'a pas dormi de la nuit et fait le tour du propriétaire. Dès 1h du matin, les sondes thermiques ont donné l'alerte. Il a alors fallu actionner le système d'aspersion.
Le système, c'est qu'on envoie, comme on fait l'été, comme une irrigation, sauf que c'est une irrigation sur frondaison qui vient recouvrir toutes les fleurs et toutes les branches d'une couche de glace qui va faire protection, qui va faire écran thermique en fait pour protéger du froid. C'est suffisant dans une certaine proportion, mais passer des températures vraiment négatives comme nous là cette nuit on a pris quand même moins 7, donc c'est pas efficace à 100%. On va certainement avoir des dégâts.
Alors c'est encore un peu tôt pour le savoir, il faut attendre le dégel complet car à l'ombre de grands arbres, certaines rangées sont encore recouvertes d'une gangue de glace. Elle ira inspecter les parcelles cet après-midi avec un technicien.
C'est sûr qu'on aura des dégâts, hein, avec des températures si basses, on peut pas protéger à 100%. On espère simplement que ça sera des dégâts raisonnables.
Il faudra aussi aller voir la parcelle d'abricotiers qui eux n'ont pas eu de protection cette nuit. Moins 7 degrés à cette période de l'année, Camille n'en a pas souvenir. La nuit prochaine s'annonce un peu plus clémente. On annonce des nuages dans la région.
Étienne Baudu, et les feux allumés cette nuit par les arboriculteurs pour tenter de sauver leur récolte ont généré un important voile de pollution dans toute la vallée du Rhône. Une vigilance jaune pourrait même être déclenchée. La jeune fille de 18 ans arrêtée à Béziers en début de semaine est en ce moment dans le bureau d'un juge antiterroriste à Paris. Elle est soupçonnée d'avoir voulu attaquer une église le week-end de Pâques et un certain nombre d'éléments troublants ont été trouvés dans sa chambre par les enquêteur Alice Moreno.
Oui, tout le nécessaire à fabriquer des dispositifs explosifs était entreposé dans sa chambre. Plusieurs bouteilles de produits chimiques notamment, utiles à la fabrication de TATP. La jeune femme conservait aussi un schéma d'une église située à proximité de son domicile et puis un petit carnet à spirale noirci de notes dans lesquelles elle évoque clairement plusieurs projets d'attaque. Elle fait référence au groupe État islamique dans ses écrits, mais les enquêteurs y ont aussi découvert des symboles du nazisme. Élément particulièrement sordide, elle avait imprimé une photographie de la décapitation du professeur Samuel Paty et d'autres photos de djihadistes armés. L'exploitation de son téléphone a également révélé des images de propagande djihadiste. Jusqu'alors inconnue des services de renseignement, elle doit être mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes et détention d'explosifs pour préparer une attaque. Atteinte aux personnes. Elle devrait être placée en détention provisoire.
Merci Alice Moreno. Le PSG peut rêver plus grand. Il a battu le Bayern à Munich 3-2 hier soir en match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. On disait les Parisiens plutôt inconstants, tantôt fulgurants. Ils avaient pris la deuxième option hier soir, Philippe Sanfourche.
Oui, exactement, l'option touchous hein, sur la banquise bavaroise, sous la neige, recroquevillée en défense pour mieux décocher leurs flèches en attaque, tout ce qui constitue en fait une équipe, chacun son rôle, les joueurs de devoir qui tiennent la baraque, et puis les artistes, les solistes, Mbappé en tête, qui doivent saisir la bonne occasion pour percer en plein cœur. Alors certains lui prédisent encore un plafond de verre à Kylian Mbappé, lui il répond par les chiffres, 4 buts contre Barcelone en 8e de finale, et déjà 2 contre le champion d'Europe hier. Alors attention, ce n'est qu'un match aller, le Bayern est une équipe fantastique. Il y a un petit avantage indéniable pour Paris, mais dans 5 jours, hein, 5 jours, c'est déjà demain, il y aura le retour au Parc des Princes, un autre match, une autre histoire. Mais bon, c'est ça la magie du football.
Restez avec nous, Philippe Sanfourche, parce que Pascal Pro nous a rejoint. Après tout le mal que vous avez dit du PSG hier, vous êtes calmé ?
Mais pas du tout, ami. Je crois que vous avez mal écouté ce que j'ai dit hier. Je m'inscrivais dans les deux matchs
aller et retour.
Oui.
C'était globalement que je parlais. Mais ce PSG, et l'ami Philippe ne me contredira pas, il est quand même très mauvais en championnat. C'est incompréhensible. Le match de Lille, alors où les joueurs n'ont rien à faire et qu'ils le disent à ce moment-là. Moi, je vois la prestation contre Lille et je dis ces joueurs-là ne peuvent pas faire quelque chose de bien contre le Bayern.
Juste une réponse, Philippe, si vous êtes toujours en ligne.
Oh, ce qu'on peut dire, c'est
rendez-vous
que
depuis 10 ans,
du Qatar, le Paris Saint-Germain a glané 27 titres sur le sol français. Donc on peut pas dire qu'il se moque des compétitions hexagonales.
Voilà, ça c'est fait. Merci. Bon. Le débat est ouvert au 32-10. À tout de suite. La météo, Peggy Broche. Les températures font grand écart.
Ah oui, Christelle, écoutez bien. À Auch, ce matin par exemple, c'est descendu à -3,4 degrés. Cet après-midi, ça va grimper jusqu'à 20 degrés. Pareil du côté de Montauban, de -2,1 degrés ce matin. On passera à 20 cet après-midi, 20 à Bordeaux, 22 même à Biarritz. On repasse carrément au-dessus des normales dans le sud. 18 prévus à Perpignan, 16 à Marseille, 15 à Lyon comme à Nantes, 14 à Brest et à Tours, 13 à Paris, 11 à Lille et Nancy. Côté ciel, c'est très ensoleillé sur toutes les régions au sud de la Loire, avec un léger voile sur la façade atlantique, un peu de vent près de la Méditerranée. Puis au nord, entre la Bretagne et le Grand Est, c'est plus nuageux, surtout entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France et les frontières du Nord.
Et demain, fini le gel ?
Oui, alors il pourrait encore y avoir quelques petites gelées sur le nord-est, mais ailleurs, c'est vrai que ça va remonter de 1 à 4 degrés au nord, ça reste froid, je vous l'accorde, de 4 à 10 au sud, et puis les maximales seront 12 partout, 13 à Cherbourg, jusqu'à 22 degrés à Bordeaux, 17 à Rennes, comme à Nancy, 18 à Paris. Demain, côté ciel, changement de temps, puisqu'on a une perturbation qui arrive par l'ouest, peu depuis le matin, plus depuis l'après-midi, notamment entre la Bretagne, les Pays de la Loire, et du sud-ouest à la Champagne. Ce sera gris également sur le golfe du Lion avec quelques gouttes, et puis ailleurs, on gardera un ciel légèrement volé.
Bon, gris, mais un peu plus doux. Hein.
Exactement.
Merci, Peggy. À suivre, le rappel des titres, il va être 13h sur RTL.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL. Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Faut-il légaliser l'euthanasie ? C'est la deuxième fois qu'on en parle en quelques jours, mais c'est vrai que c'est un sujet qui vous passionne. Bonjour Anne, vous êtes infirmière.
Oui, bonjour Pascal.
Quel est votre sentiment ?
Écoutez, mon sentiment pour l'avoir vivre et l'avoir vécu aussi bien avec des patients qu'avec des proches, je pense qu'aujourd'hui, oui, il faut arrêter de se voiler la face et il faut légaliser l'euthanasie.
Et nous allons continuer cette discussion, évidemment, avec vous dans quelques secondes. Christelle, le rappel des titres.
Emmanuel Macron veut supprimer l'ENA, symbole d'une élite hors sol. Le chef de l'État devrait présenter cet après-midi une réforme de l'ensemble de la haute fonction publique. L'ENA sera remplacée par une école plus ouverte à la diversité. Le cap des 10 millions de personnes vaccinées devrait être franchi d'ici ce soir. Quant à l'école à la maison, c'est toujours poussif. La plateforme du CNED est de nouveau perturbée, cible encore une fois d'une cyberattaque. Et il y a toujours des ratés sur l'ENT. L'espace numérique de travail. Nos transports, de plus en plus écolos, Total commence à produire des biocarburants pour les avions à base d'huile de cuisson usagée. Les aéroports français seront livrés dans le courant du mois. Quant à la SNCF, les premiers trains à hydrogène français seront bientôt sur les rails. Quatre régions ont commandé 12 rames à Alstom. Astérix et Obélix, l'empire du milieu, c'est le titre du prochain film que prépare Guillaume Canet avec un casting XXL. Il sera Astérix, Gilles Lelouch, Obélix, Vincent Cassel, César, Marion Cotillard, Cléopâtre, Pierre Richard, Panoramix et même Philippe Catherine en assurance Tourix, c'est prometteur.
Les auditeurs ont